VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 11 novembre 2015. Au sommaire ce soir.
Burundi, le pouvoir accuse la Belgique d'armer les opposants au président de Nkurunziza.
Pour le parti présidentiel, les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne font des déclarations apocalyptiques concernant un génocide hypothétique au Burundi.
Que pensent les centrafricains du nouveau chronogramme électoral ?
Mais la question que moi je me pose en fait, c'est ces élections se dérouleront dans quelles conditions ?
Qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Les centrafricains en ont marre de cette transition qui est vraiment élastique.
Notre correspondant à Bangui leur a tendu son micro.
Après 5 mois d'attente, le Nigeria a finalement un nouveau gouvernement.
L'Europe fait pression sur l'Afrique pour qu'elle limite le flux de migrants vers l'ancien continent.
Ici aux États-Unis, on rend hommage aujourd'hui aux anciens combattants.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Alors que la violence persiste au Burundi et que le pays attire de plus en plus l'attention des décideurs internationaux, le parti au pouvoir à Bujumbura accuse Bruxelles d'armer les opposants au président Pierre Nkurunziza. Christophe Nkurunziza nous en dit plus.
Un communiqué signé par le président du parti CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, mais lu à la radio-télévision nationale par le porte-parole du parti, Gelas Ndawirabe, affirme sans ambages que l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, arme l'opposition burundaise. Et ceci pour recoloniser ce pays de 10 millions d'habitants qui est en proie à des violences grandissantes depuis le mois d'avril dernier. Pour le parti présidentiel, les lobbies belges et le réseau de l'Union européenne font des déclarations apocalyptiques concernant un génocide hypothétique au Burundi. L'unique but de ces déclarations reste de protéger une nébuleuse politicienne financée par le colonisateur belge pour détruire ce pays de lait et de miel, indique le président du parti présidentiel dans le communiqué. Le président du parti présidentiel est catégorique. Le CNDD-FDD n'a jamais préparé, ne préparera jamais un génocide. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
République démocratique du Congo, le chef de la force de la mission ONU RDC, la MONUSCO, se dit frustré de ne pas avoir été en mesure de faire plus pour le peuple congolais. Le général Carlos Alberto dos Santos Cruz s'est ainsi exprimé au terme de son mandat. Il quitte donc la RDC. De nationalité brésilienne, le général Santos Cruz a pris ses fonctions en RDC en juin 2013 avant de délocaliser son état-major de Kinshasa à Goma, capitale de la province troublée du Nord Kivu.
Accident de la route dans le nord du Mali. Hier soir, vers 21h, un véhicule de l'armée malienne a fauché un homme et une femme circulant sur une moto dans le quartier Château de Gao. On compte un mort et un blessé grave. Le commandant du théâtre de l'opération Maliba accuse 2 hommes en armes non identifiées d'être les auteurs de cet incident. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Dans la nuit du 10 au 11 novembre, un véhicule FAMA a été braqué et enlevé par 2 individus armés. Les assaillants, dans leur fuite, ont fauché un couple sur une mobylette, faisant du coup 1 mort et 1 blessé grave. Face à cette situation, le commandant du théâtre de l'opération Maliba invite les populations au calme et à la sérénité afin d'éviter de plonger dans un comportement malicieusement orchestré par des ennemis de la paix. Il promet que cet acte ne sera pas impuni et que toute la lumière sera faite sur cet accident. En tout cas, si l'on en croit aux déclarations du commandant de l'opération Maliba, les 2 hommes en armes qui ont causé cet accident mortel courent toujours et ne sont pas encore inquiétés. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le Nigeria a un nouveau gouvernement plus de 5 mois après la prise de fonction du président Muhammadu Buhari, qui garde le portefeuille du pétrole, Idriss Fall.
36 ministres et secrétaires d'État venus de 36 États de la Fédération ont prêté serment à Abuja. Le président Muhammadu Buhari, 72 ans, s'est réservé le portefeuille du pétrole gangréné par la corruption. Il aura pour adjoint Ibe Kasikwu, tout nouveau patron de la compagnie pétrolière nationale. L'ancienne banquière d'affaires Kemi Adeosun sera aux finances pour tenter de remettre en marche une économie grippée par la dépendance vis-à-vis du pétrole, dont les cours sont en chute libre. Le général à la retraite Mohamedou Mansour Dan Ali sera à la défense avec la lourde tâche de combattre Boko Haram. L'ancien chef d'état-major de l'armée Abdulrahman Dambazou prend le ministère de l'Intérieur. Un avocat d'affaires, Geoffrey Onéama, sera à la tête de la diplomatie.
Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang-Nguema, candidat à sa succession pour l'élection de 2016. Après 36 ans au pouvoir, il a fait part de ses ambitions hier soir sur la radio-télévision nationale. La date précise du scrutin n'est pas encore annoncée.
40e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, le président José Eduardo dos Santos a insisté sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Son pays est pourtant pointé du doigt par les ONG de défense des droits humains.
Afrique du Sud, 8 policiers écopent de 15 ans de prison pour le meurtre en 2013 d'un chauffeur de taxi mozambicain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Libye, 16 militaires ont été tués dans de violents combats à Benghazi entre les forces alliées au gouvernement reconnu par la communauté internationale et des combattants du groupe État islamique. Nathalie Barche.
Des combats appuyés par des frappes aériennes ont éclaté mardi à Benghazi entre l'armée du général Khalifa Haftar et les militants alliés au groupe État islamique. 16 soldats de l'armée libyenne ont été tués, a déclaré le porte-parole militaire Milad al-Zawe à l'ANA, à l'agence de presse du gouvernement officiel. Zawe a dit à Reuters que les forces spéciales du gouvernement officiel ont repris le camp de défense aérienne entre Machache et Sidi Farage. Ce camp avait été capturé l'année dernière par les djihadistes, a-t-il précisé. Haftar a déclaré la guerre aux militants islamistes à Benghazi il y a plus d'un an et il a ensuite été nommé commandant en chef pour le gouvernement officiel. Sa campagne n'a pas eu grand succès jusqu'ici. Les deux belligérants semblent combattre à forces égales, mais les djihadistes, notamment de l'étranger, sont de plus en plus nombreux à s'engager dans la bataille en Libye.
Plus d'une soixantaine de dirigeants de l'Afrique et de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui et demain à La Valette, à Malte, afin de proposer de meilleures solutions pour résoudre la crise migratoire qui a vu des centaines de milliers de personnes fuir vers l'Europe cette année. Jacques Aristide.
L'UE affirme que le sommet porte principalement sur les raisons qui poussent de nombreux Africains à partir de leur pays d'origine, mais aussi sur les voies légales de l'immigration, le renforcement des protections pour les migrants, la lutte contre les contrebandiers et la coopération avec les pays africains pour le retour des personnes dont la demande d'asile a été rejetée. Ce sommet est un sommet où doivent découler des actions concrètes et pratiques, a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk. L'Europe va ainsi débloquer une nouvelle enveloppe d'aide de l'ordre d'1,8 milliard de dollars en faveur des pays africains, mais les critiques affirment que l'UE cherche en fait à rapatrier les migrants vers les pays qui bafouent les droits humains et qui n'offrent pas d'opportunités économiques. Au moins 14 personnes sont mortes noyées ce mercredi après le naufrage d'un bateau qui avait quitté la Turquie en mettant le cap sur la Grèce.
La rencontre internationale sur la Syrie, prévue samedi à Vienne, doit sélectionner la délégation unifiée de l'opposition syrienne qui discutera avec le régime de la transition politique, a affirmé aujourd'hui à l'AFP une source occidentale à Beyrouth. La Russie et l'Iran ne sont pas d'accord avec les États-Unis et leurs alliés européens et arabes sur les groupes devant être qualifiés de terroristes et ceux pouvant être considérés comme faisant partie de l'opposition syrienne.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a achevé une visite officielle à Washington où il s'est entretenu avec le président Barack Obama sur l'état et l'avenir des relations américano-israéliennes. Il s'agissait pour les deux dirigeants de réparer les dégâts qu'a pu causer leur profond désaccord sur l'accord nucléaire avec l'Iran et l'évolution du processus de paix entre Israël et l'autorité palestinienne. Pour Netanyahou, c'est l'une des meilleures rencontres qu'il ait eues avec le président américain. Il n'y a pas eu d'augmentation officielle de l'aide, souligne l'AFP, mais une délégation de responsables américains est attendue à Jérusalem en décembre pour en discuter.
Les Américains commémorent aujourd'hui Veterans Day, le jour consacré aux anciens combattants. Lors d'une cérémonie dans la capitale fédérale, le président Barack Obama a salué les femmes et hommes qui ont fait partie des forces armées des États-Unis et ceux qui servent encore la patrie.
On these sacred grounds, where generations of heroes have come to rest.
En Europe, des cloches ont carillonné en mémoire des soldats tués dans la Première Guerre mondiale. À Paris, Londres et dans d'autres villes moins importantes, des cérémonies ont rappelé la signature de l'armistice du 11 novembre 1918, mettant fin aux hostilités. Le Qatar a enregistré son premier décès dans le conflit au Yémen, un soldat de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et nous passons tout de suite à la Minute Éco avec John Lyndon.
Le FMI presse les pays pétroliers à restructurer leurs économies. C'est une exhortation qui leur a été faite à Doha par Christine Lagarde, directrice du Fonds monétaire international. La situation actuelle est un rappel pressant à la nécessité de se restructurer, a déclaré Madame Lagarde à l'adresse des pays dont l'économie dépend largement des revenus de leurs exportations d'hydrocarbures. Elle a souligné que les États producteurs devront trouver de nouvelles sources de revenus et de taxes tout en appliquant un strict contrôle sur les dépenses publiques. Les autorités américaines ont procédé mardi à de premières mises en examen dans l'une des plus importantes escroqueries informatiques de l'histoire, avec l'infiltration de plus de 83 millions de comptes des clients de la banque américaine JP Morgan Chase. Britt Bharara, le procureur fédéral de Manhattan, a inculpé 4 personnes qu'il accuse d'avoir ciblé la banque et 12 autres sociétés financières américaines, dont le groupe des médias Dow Jones, maison mère du Wall Street Journal et de l'agence d'information du même nom. C'est la première fois que des personnes sont officiellement identifiées par les États-Unis dans ce dossier qui a ravivé ici les craintes sur la fragilité des entreprises face aux cybercriminels. Snapchat passe la barre des 6 milliards de vidéos par jour. L'application américaine, célèbre pour ses messages qui disparaissent après quelques secondes, a indiqué lundi que ses utilisateurs regardaient désormais chaque jour plus de 6 milliards de vidéos par son intermédiaire. À titre de comparaison, Facebook a revendiqué la semaine dernière plus de 8 milliards de vidéos vues par jour.
Merci pour la Minute Éco, John Lyndon.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Hervé Renard, viré de Lille.
Oui, le club français annonce avoir mis fin à la collaboration de son entraîneur à peine 3 mois seulement après son arrivée dans le club nordiste. Le LOSC est actuellement 16e de Ligue 1. Sur son site internet, le club lillois explique qu'après 13 journées de Ligue 1, le LOSC pointe à la 16e place, une position périlleuse et assurément pas à la hauteur des objectifs du club. Hervé Renard est donc provisoirement remplacé par l'un de ses adjoints, Patrick Collot.
Scandale du dopage dans l'athlétisme mondial. Lamine Diack quitte le CIO.
L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme avait été suspendu hier provisoirement par le Comité international olympique. Lamine Diack, 82 ans, était entré comme membre du CIO en 1999 au titre de président de la Fédération internationale d'athlétisme, poste duquel il a démissionné en août dernier. Atteint par la limite d'âge, il en était devenu en 2013 à 80 ans membre honoraire. Le Sénégalais, je vous le rappelle, a été mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé au sujet de cas de dopage en Russie que le dirigeant aurait couvert.
Accusée de dopage généralisé, la Russie accepte d'ailleurs de nommer un spécialiste étranger.
Le ministre russe des Sports, Vitaly Mutko, a annoncé la décision de Moscou à 2 jours d'une possible suspension de toute compétition d'athlétisme suite aux accusations de l'Agence mondiale antidopage. Vitaly Mutko a indiqué que le spécialiste étranger pourrait être à la tête du laboratoire antidopage de Moscou, dont le directeur a démissionné. Lama a, dans un rapport cette semaine, accusé Rodchenkov d'être au cœur d'un système généralisé de dopage qui incluait la destruction des tests positifs aux produits dopants.
La NBA, le championnat de basket nord-américain, les résultats, Nicolas ?
Oklahoma a largement dominé Washington 125-101 grâce à un étincelant Russell Westbrook, auteur de son premier triple-double de la saison. Malheureusement, on déplore la blessure de l'autre vedette du Thunder, Kevin Durant. À la Nouvelle-Orléans, les Pelicans ont remporté leur premier match de la saison après 6 défaites consécutives en battant Dallas 120-105. De son côté, Cleveland a bataillé pour s'imposer face à Utah 118-114. Privé de Kobe Bryant, blessé au dos, les Lakers de Los Angeles ont été battus à Miami 101-88.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubel Orsil, en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour. Première escale ce soir, Bujumbura.
Oui, la crise burundaise, violente sortie ce mercredi du parti au pouvoir contre la Belgique. Le CNDD-FDD accuse Bruxelles d'armer l'opposition dans l'objectif de recolonisation du pays. Des accusations qualifiées de sans fondement par le ministère belge des Affaires étrangères. Timothée Donnangmaï a recueilli la réaction de l'ancien Premier ministre belge, Louis Michel, aujourd'hui député européen.
Les autorités burundaises ont évolué vers un régime autocratique, despote. Ils ne supportent pas qu'une voix autorisée, je pense, se prononce contre les exactions qu'ils commettent, contre les risques qu'ils font courir à leur population et surtout contre la manière dont ils traitent leur population. Il y a aussi un risque d'exaltation au génocide. Quand on voit les propos du président du Sénat qui est proche du président de Nkurunziza, qui n'a jamais été démenti par le président et qui au contraire lui-même en a remis sur cette question, ben, on a tout lieu évidemment d'être inquiet et on a tout lieu de se prononcer de manière extrêmement sévère à l'égard de ce qui se passe là-bas. Le président Nkurunziza s'est porté au pouvoir dans l'illégalité, en contravention flagrante avec les accords d'Arusha.
Vous étiez aux accords d'Arusha. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui a été décidé là-bas ?
Ce qui a été décidé, c'est le principe d'un homme, une voix. Et ce qui a été décidé, c'est que le président de l'époque, Pierre Bouyoya, quitterait le pouvoir après 18 mois. Ce qu'il a fait en respectant parfaitement les accords d'Arusha. Et ce qui était convenu aussi, c'est que le président élu des scrutins respecterait la Constitution. Or, il a modifié la Constitution. Et donc, et ce qui était aussi prévu, c'est qu'il fallait mener des politiques inclusives. Tout ça n'a pas été respecté. Hein.
Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, dit qu'au lieu de crier au génocide, la Belgique devrait encourager les populations des quartiers contestataires à remettre les armes détenues illégalement.
Ce n'est pas ça véritablement le problème. Le problème, c'est que le gouvernement et le régime pourchassent sans aucune preuve et tuent tous les jours des gens qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est ça qui est le scandale. Les exactions se commettent tous les jours. Il y a là une situation qui est absolument intolérable. Quand on pense que le ministre, un des ministres responsables au plus haut niveau, le ministre de la Justice notamment, tient des propos qui exaltent à la violence, qui sont des propos menaçants. La sémantique et le vocabulaire utilisé sont des vocabulaires qui ont été utilisés lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda. Donc je pense que toutes les conditions sont remplies pour activer aux Nations Unies le département de prévention des génocides.
Louis Michel, député européen.
Tatiana Mosso, je suis avec vous dans Washington Forum cette semaine. Quelle issue pour le Burundi alors que plane plus que jamais l'ombre d'une guerre civile? Depuis lundi, le Conseil de sécurité débat sur la situation dans le pays. La France a initié une résolution pour condamner les violences et leurs acteurs. Sur place, les violations des droits de l'homme ne cessent d'être dénoncées. Alors que penser de cette possible résolution de la communauté internationale? Les négociations au Burundi entre opposition et pouvoir sont-elles possibles? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
Cap sur la RCA, les Centrafricains, pour la plupart, souhaitent le respect du calendrier électoral publié cette semaine. Nombreux sont ceux qui pensent que les élections pourraient mettre un terme au conflit qui ravage ce pays depuis bientôt 3 ans. De Bangui, un reportage de notre correspondant Freeman Sipila.
Depuis la publication du nouveau chronogramme, les élections ne font plus de doute en République centrafricaine, malgré l'instabilité sécuritaire. Un jour seulement après la publication du calendrier, le corps électoral a été lui aussi convoqué par un décret de la chef de l'État de transition. Selon le texte, la campagne référendaire débutera le 2 décembre 2015 à 6h du matin et prendra fin le 11 décembre à minuit avant le référendum constitutionnel le 13 décembre. La campagne électorale du premier tour des scrutins s'ouvrira le 12 décembre à 6h et prendra fin le 25 décembre à minuit. La campagne du deuxième tour, quant à elle, débutera le 23 janvier 2016 pour finir le 29 janvier à minuit. Ce mercredi 11 novembre, c'est le retrait des formulaires de candidature qui a débuté au siège de l'Autorité nationale des élections, ANE. Déjà dans la matinée, en l'espace d'une heure, au moins 8 formulaires pour la présidentielle et une quinzaine d'autres pour les législatives avaient été retirés. René Sakanga Moruba, président de la commission logistique et matérielle à l'ANE, donne plus de précisions sur les procédures de retrait de ces formulaires.
Les procédures sont tout à fait simples. Il suffit simplement que quelqu'un se présente, il décline son identité grâce à une pièce d'identité et qu'il nous dise s'il vient pour l'élection présidentielle. Si oui, la personne est reçue par Mme Sakano qui est en charge de ce dossier, eh bien, sinon si c'est la législative, il y a le jeune collaborateur qui est là, qui reçoit également les personnes désireuses de se présenter à l'élection législative.
Le retrait de formulaire sera clos le vendredi 13 et le dépôt de candidature débutera le samedi 14 novembre. Les Centrafricains, pour la plupart, sont unanimes sur la tenue de ces élections. Quelques-uns disent ce qu'ils en pensent.
Moi, en tant que Centrafricain, je suis d'abord satisfait parce que c'est ce qu'on attendait. Les Centrafricains veulent bien aller aux élections.
C'est une bonne chose. Cela répond au des Centrafricains qui attendaient les élections. Mais la question que moi je me pose en fait, c'est ces élections se dérouleront dans quelles conditions?
Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Les Centrafricains, on en marre de cette transition qui est vraiment élastique. Donc on veut bien que les élections se déroulent d'ici le 29 décembre comme prévu.
Moi je pense que le calendrier soit maintenu et que nous allions aux élections.
Moi je pense pour ma part qu'il est temps qu'on aille aux élections. On est fatigué. On veut un président digne de son nom qui peut venir nous gouverner le pays, arrêter la crise, arrêter les tueries, arrêter les incendies des maisons. On en a marre.
Freeman Sipila, Bongui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Les experts de la commission du bassin du lac Tchad, la CBLT, sont réunis à Yaoundé, au Cameroun. Le but de la rencontre est de mettre en place un plan de sauvetage du dit bassin qui se meurt. Les résolutions de la réunion avec notre correspondant à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka.
La première suggestion est de transférer les eaux du bassin du Congo qui est le deuxième réservoir en eau au monde après le fleuve de l'Amazonie pour sauver le lac Tchad. Ce projet va coûter environ 15 millions de dollars, selon Swaibu Mohamedou, expert à la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad.
Le lac Tchad faisait 25 000 km² au cours des années 1960. En 1960, la population du bassin du lac Tchad faisait 3 500 000 habitants. À l'heure actuelle, non seulement la superficie du bassin a diminué, mais la population a augmenté. Nous sommes à l'heure actuelle à plus de 40 millions d'habitants. Donc, il y a tous ces aspects qui contribuent à la dégradation des ressources naturelles de façon générale dans l'espace du bassin du lac Tchad.
Pour exécuter ce projet, il faut l'autorisation de la RD Congo, Congo-Brazzaville et de la RCA. Les experts disent attendre cette autorisation pendant la réunion sur les changements climatiques à Paris. Le problème qui se pose avec acuité ici est que la plupart des jeunes vivant aux abords du lac Tchad se font recruter par Boko Haram. Mana Boubakari, un autre expert, dit qu'il faut environ 80 millions de dollars pour la création des emplois qui vont empêcher à ces jeunes de rejoindre Boko Haram.
Les jeunes de ce bassin et particulièrement autour de ce lac Tchad, c'est des jeunes qui sont en proie à la secte Boko Haram parce que ce sont des jeunes désœuvrés. Donc nous avons développé toutes ces actions pour pouvoir accompagner ces jeunes à avoir des emplois et des activités socio-économiques.
Il y a encore 50 ans, le bassin du lac Tchad avait une superficie de 25 000 km². Mais aujourd'hui, 90% de ses ressources en eau ont disparu. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Nous partons maintenant à Gao, dans le nord du Mali, où a été inauguré hier un forum pour la paix. Des centaines de personnes ont pris part à cette cérémonie. Parmi elles, la mission onusienne à Gao et les ressortissants venus pour la circonstance de Bamako et des États voisins. Durant 3 jours, les participants vont échanger sur la paix, la cohésion sociale, l'art de vivre ensemble et ils feront des recommandations à l'intention des autorités. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
C'est la place de l'indépendance utilisée comme place de la charia au moment de l'occupation de la région par les djihadistes, entièrement renouvée aujourd'hui par Pat Mali à travers un programme de développement américain qui a abrité ce mardi dans l'après-midi le lancement du Forum pour la paix. L'objectif visé est de faire en sorte que les communautés de Gao puissent se parler et accompagner le processus de paix. Ce sont les tout-petits du jardin d'enfants, la couronne du Sony, qui ont donné le ton. À tour, les jeunes et les femmes ont pris la parole pour saluer cette initiative. Quant à l'aménagement, son responsable à Gao réaffirme l'engagement de la mission onusienne, Mohamed Dessouaf, chef du bureau de l'aménagement à Gao.
Chacun de nous est appelé à plus de tolérance et de générosité pour que la cohabitation soit possible. L'aménagement ne ménagera aucun effort pour appuyer toute action tournée vers la réconciliation et la paix.
Pour le ministre de la Réconciliation nationale, cette consultation des populations à la base est une initiative qu'il faut saluer qui mérite d'être organisée dans toutes les régions du Mali. Zabi Ould Sidi Mohamed, ministre de la Réconciliation nationale.
Cette rencontre de Gao intra- et intercommunautaire marque le point de départ de la nouvelle phase de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale. La formule de consultation populaire est une formule que nous apprécions et que nous allons répéter à Mopti, à Tombouctou, à Kidal et aussi dans les autres régions du Mali.
À la place de l'indépendance, nous avons tendu notre micro à certains participants.
Je suis très fière parce que nous sommes venus nous retrouver pour la réconciliation. Il y avait le comité arabe, Tamashek, Ossore, il y a aussi les Bambara, il y a tout le monde.
Je suis d'abord très émotionné, je crois désormais. C'est le point de départ de la réconciliation entre les communautés du nord du Mali.
Pour les organisateurs, le lancement du forum a été une réussite vu la mobilisation générale et la participation de toutes les composantes de la société. Abou Zeidi Ousmane Meïga, membre de la commission d'organisation.
Nous avons pu faire venir les 4 cercles de Gao et aujourd'hui ça se manifeste par leur présence, par une foule nombreuse, une foule enthousiaste, une foule qui va droit à la paix et à la réconciliation.
Cependant, les responsables de la CEMA annoncés pour le forum n'ont pas effectué le déplacement pour des raisons que nous ignorons encore. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Décidément, on va pas rater Roger Muntou ce soir dans ce programme en jumelage avec Top Congo FM. Roger est à Kinshasa toute cette semaine et on sera au rendez-vous, Morgane.
Absolument.
Le lyriciste Bantou. Julien m'a dit ça, volume co.
Si tôt le matin, je me réveille.
Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'y ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te chanterai.
Mon amour, pitié dans mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul ventre. Pitié toi mon amour.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, à la console, Tian Wan. Présentation, Morgane Guiriec et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et visitez voafrique.com.
Et quand je rentre le soir, que la vie me fait morfler. Il est déjà tard, tu es dans les bras de Morphée. Ce monde me brise, je ne suis pas infaillible. Et c'est pas le showbiz qui fait les bons pères de famille. Hip-hop ma enquête, malgré les offenses. Je veux pas que le rap game te vole ton enfance. Bizarre la route tourne, si tu manques de repères. Tu me reprocheras un jour ce que je reproche à mon père. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé ma...
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.